Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. On passe à autre chose. Nous nous rendons au centre de la ville de Puebla. C'est une belle ville. Le prêtre, justement, nous l'avait dit. C'est une belle ville célèbre pour ses céramiques. Et nous arrivons près de la cathédrale, qui est belle. Et nous traversons un magnifique parc. Il y a des arbres. Et là, deux jeunes nous interpellent. Et c'est dans le cadre d'un cours. Ils font des interviews. Alors mon collègue dit, justement, le prêtre qui est là, c'est un directeur de radio au Québec. Alors les jeunes sont un petit peu impressionnés et ils vont me poser la question suivante. Pour vous, qu'est-ce que la justice? Alors, c'est une drôle de question, hein? Ça me touche droit au cœur. Alors je réponds très, très simplement parce qu'on sent bien que c'est pas une interview qui va durer une demi-heure, là. Alors, je parle du droit des personnes d'être entendues et de recevoir ce qu'ils ont besoin. C'est cela pour moi la justice. Le droit des personnes d'être entendues et de recevoir ce qu'ils ont besoin et qui n'est pas une forme d'égalité, puisque la répartition devrait être selon les besoins de chacun, qui ne sont pas les mêmes pour tous. Voilà en gros, en substance, ce que je vais dire. Et ma réponse est liée à mon expérience, l'expérience de ma vie. Alors, j'ai expérimenté cela dans ma vie, cette conception d'une justice où, je dirais, on s'attend à ce que chacun ait sa petite pointe de tarte, tranchée de la même façon, la même portion pour tous. Alors, les très gras, les grassouillets, vont avoir la même portion que ceux qui sont comme des chicots. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des échalotes. Non, ça va pas. Ça, c'est une justice à la manière du monde. Mais la justice à la manière de Dieu, elle est toute différente dans la Bible. Dieu est comme un berger qui soupèse les brebis. Et la brebis qui est grasse, eh bien, il lui donne ce qu'il lui faut, mais ne peut pas lui donner la même chose qu'à la brebis qui est chétive. Ça, c'est la justice de Dieu. Il donne selon les besoins des personnes. Il ne tranche pas le gâteau avec des portions pareilles, parce que les appétits ne sont pas pareils par rapport aux besoins. Alors c'est une conception de la justice qui n'est pas très populaire dans notre humanité, dans notre monde. Alors d'où viennent les chicanes testamentaires, les chicanes de famille, les chicanes entre les villes, les sociétés, les gouvernements, les chicanes entre les pays. Alors, voilà pour la justice. Droit des personnes d'être entendues et de recevoir ce qu'ils ont besoin et qui n'est pas une forme d'égalité. On prend une photo avec eux. Ce sont des jeunes sympathiques. Ils sont contents d'avoir rencontré des gens du Canada. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. petit Jean eut des frissons. Son cœur battait fort. Son père qui lui disait, là, au milieu des moutons, qu'il ne lui restait que lui. Petit Jean s'avança doucement vers lui, se frayant un chemin au milieu des moutons qui bêlaient, et se rappelant le rêve, là-haut, il lui dit en l'étreignant, « Papa, tu vivras, nous vivrons. » Tous les deux rentrèrent à la maison. La dame de la montagne était étendue sur le lit dans la chambre. La porte était ouverte. Elle distingua les pas de Petit Jean et ceux d'un inconnu. Puis le père de Petit Jean demanda à voix basse, « Qui est-ce ?» Avant qu'il ne réponde, elle se mit à redire une mystérieuse parole, et les entendait tous les deux.
« Morte l'étoile ! Morte l'étoile !
Qui est-ce ? » reprit le père.
« C'est la dame de la montagne. » Et Petit Jean s'empressa d'ajouter, « Papa, elle est aveugle. La foudre l'a frappée. » Le père eut un mouvement d'effroi et dit gravement, « Moi aussi, la foudre m'a frappé. » Petit Jean l'amena doucement près de la dame de la montagne. Celle-ci ouvrit lentement les paupières.
« C'est moi qui ai fermé les yeux de ta mère, » dit le père à mi-voix. « Elle est morte en t'appelant. »
Petit Jean pleurait. « C'est demain qu'on se sépare d'elle ? » demanda-t-il.
« C'est demain qu'on l'enterre, Petit Jean. » Il retourne à la maison.
Il remonta le chemin qui mène au village et à sa maison. Le père, cette nuit-là, eut les pensées de son fils, et le fils eut les pensées de son père. La mère et l'épouse venaient de les mettre face à face. Il venait de se trouver en la perdant. Les moutons bêlaient. Ce n'était plus le caquettement des poules sur la montagne pointue qui devait éveiller la dame de la montagne. Petit Jean était sorti pour s'occuper d'eux. Au milieu de ces bêtes, il avait peur. Le village allait-il se masser dans la petite église Sant'Antonio et juger de son regard ce fils ingrat près de la mère défunte? Et le curé, avec ce qui lui était arrivé la veille, comment pourrait-il leur adresser la parole? Sa mère était orpheline. Elle avait grandi seule au monde. À l'occasion d'une foire agricole, où elle était venue avec un groupe d'orphelines, elle avait fait la rencontre de son père. Cette famille de son père, il devrait aussi l'affronter. Les oncles, les tantes, les aïeuls, tous. Rentrant à la maison, il fut étonné de voir debout dans sa chambre la dame de la montagne. Elle avait pris soin, comme à la chaumière, de faire sa toilette matinale. Mais comment avait-elle pu, avec ses yeux blancs, trouver le petit bassin, l'eau et tout le reste? Petit Jean frappa doucement sur la porte entr'ouverte. « Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin ? » demanda-t-il.
« J'ai trouvé. »
Petit Jean resta perplexe. Il ajouta. « C'était la maison du vieux Pépé Antoine. » Elle ne disait rien. Puis,
« Cette maison m'en rappelle une autre, Jean, comme cet Antoine de ma jeunesse. »
Il écoutait. Elle ajouta,
« À 20 ans, je vivais de l'autre côté de l'impossible, dans un petit village opposé au tien. Un jour, un jeune homme est arrivé de notre côté. Il cherchait sa route. Dans la folie de mes 20 ans, je fis avec lui le tour de l'impossible. C'est alors que la guerre éclata et qu'il s'en est pris. Ce jour-là, je pris le chemin pour me rendre jusqu'au sommet de l'impossible. Et mes larmes troublant ma route, je me perdis encore dans la forêt, comme à mes 14 ans. Cette fois-ci, je n'avais plus ni père, ni mère, ni village pour venir à mon secours. »
Petit Jean croyait entendre un conte de fées. Il ne perdait aucune parole. Brusquement, elle s'était arrêtée et remise à trembler.
« Aide-moi, je suis fatiguée, »
lui dit-elle. Lentement, il l'approcha près du lit où elle s'assit un instant. Puis,
comme une proie vaincue, elle s'étendit toute tremblante, comme si elle en avait trop dit sur elle-même. D'ailleurs, Petit Jean ne l'avait jamais entendu parler d'elle. Faisant un effort de la tête, la dame de la montagne ajouta, tout en refermant ses paupières aux yeux morts,
« Prends ta place, Jean. »
Comme elle sentait qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, elle le reprit avec force.
« Prends ta place, Jean, à l'église, près de ta mère et de ton père. »
Il frémit et refusa d'y penser.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.